Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Page Facebook de Cube Radio.
Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
Martineau,
Cube Radio.
Les temps sont durs pour les restaurateurs. Nous allons parler avec Thierry Darrez, blogueur, chroniqueur et critique culinaire au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Thierry.
Bonjour Richard.
Est-ce que les propriétaires de restaurants devraient faire comme les propriétaires de gyms, c'est-à-dire on ouvre, on ferait de la désobéissance civile, on se fout du gouvernement parce qu'on est en train de crever la bouche ouverte, donc on ouvre les portes?
C'est une bonne question. Je ne sais pas si la désobéissance civile est d'actualité. Je ne sais pas ce qui va se passer pour les gyms. Je pense que le Premier ministre a passé le message que la police allait vérifier tout ça. Mais je crois qu'on doit soutenir les restaurateurs peut-être d'une autre manière. On a commencé au mois d'avril en allant les encourager, en prenant des commandes à emporter, etc. C'est sûr que le mouvement s'est un petit peu essoufflé. On sent qu'il y a une lassitude au niveau des restaurateurs qui sont complètement découragés et démotivés pour tenir la tête hors de l'eau. Mais quand même, je crois qu'il faut essayer, coûte que coûte, non seulement d'aller les encourager pour des plats emportés, mais aussi également de susciter l'intérêt du gouvernement pour apporter des solutions financières peut-être plus adaptées à leurs besoins actuels. Et ça, c'est certainement ce qui va se passer dans les prochains jours. Là.
Et là, il y a deux problèmes. Là. Bon, bien sûr, il y a la pandémie, le confinement pour les restaurateurs, mais il y a aussi là, une pénurie de main-d'œuvre, parce que bon, il y avait la PCU, mais là, c'est rendu l'assurance chômage. Donc, j'ai vu des restaurants qui sont ouverts parce qu'ils font du prêt à emporter et qui ont de la difficulté à trouver du personnel parce que les jeunes qui travaillaient dans les restos avant, ben, ils restent chez eux.
Oui, alors il y a eu ça. Effectivement, l'effet de la PCU a été vraiment un problème, effectivement, au niveau de l'activité des employés. Mais moi, tu sais, je suis peut-être un petit peu plus pessimiste. Autant je suis toujours très optimiste. Je vois toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais cette fois-ci, j'ai un petit peu de difficulté à concevoir que le personnel, que ce soit de cuisine ou autre, n'ait pas l'envie de profiter de cette période de trouble pour se trouver des nouvelles voies, de nouveaux chemins professionnels et de vie. Et je crois que même à une réouverture qui peut prendre plusieurs semaines ou mois, je crois qu'on va perdre beaucoup de joueurs. Et ça va être aussi un nouveau problème. Effectivement, beaucoup de restaurants vont fermer définitivement, mais ça n'empêchera pas ceux qui vont réouvrir dans des conditions optimales d'avoir des problèmes de personnel. Et ça va affecter tout le monde, j'ai bien l'impression.
Écoute, juste avant la pandémie, il y a trois complexes de restaurants qui ont ouvert à Montréal. Bien sûr, ouais. Celui de la Place Ville-Marie, celui de McGill, là, c'est-à-dire le Centre Eaton et dans ce coin-là, et celui aussi au coin de...
Diamond Market,
ouais. C'est ça, oui. Le Diamond Market.
Et le central.
Et le central sur la rue Saint-Laurent. Écoute, tu imagines pour ces joueurs-là? C'est épouvantable.
Non, mais c'est dramatique, d'autant plus que, bon, je donnerai pas de nom, mais il y a plusieurs restaurants ou groupes de restaurants qui avaient souhaité ouvrir dans ces commerces-là, apportant des fois même une petite boîte d'oxygène financière sur leurs activités normales qui n'étaient peut-être pas toujours au top. Alors, c'était une possibilité aussi pour eux de diversifier leur commerce. Là, c'est sûr qu'il y a des investissements, je dirais pas juste d'argent, mais il y a des investissements de temps, de fatigue, de travail, de recrutement.
Oui, parce que c'était la mode des foires alimentaires, les food court, oui. De luxe, en fait, de gastronomie, qui était une excellente idée. Il y en a trois qui ont ouvert en même temps. Paf, la pandémie arrive. Qu'est-ce qui va arriver avec ces foires alimentaires-là?
Bon, moi, personnellement, j'avais déjà émis des doutes sur le volume de trois
Oui.
Qui paraissait quand même assez considérable. Bon, celui de la place Ville-Marie a le très gros avantage d'avoir un grand bassin de population qui vit dans les bureaux et qui travaille. Et c'est des milliers de personnes par jour, donc il y avait besoin de répondre à une demande. Bon, là, maintenant, avec le télétravail, avec le 10 à 15-20% maximum des bureaux occupés, de toute façon, ça n'aurait pas suffi pour pouvoir subvenir aux besoins. après ça, au Centre Eaton, au Tamworth Market, il y a énormément de gens qui allaient magasiner. Les gens, ils y vont moins quand même. Et ça, c'est dans le cadre, s'il y a un confinement généralisé qui s'annonce en début d'année prochaine, en début 2021, ben là, ça va aussi apporter des drames sur le plan commercial. Et puis, pour ce qui est du central, ben là, il y avait un côté festif, joyeux, accessible, qui ne l'est plus non plus. Alors voilà, les trois centres commerciaux alimentaires, les trois endroits où on pouvait sortir manger dans des conditions différentes, sont mis à l'index. Alors ça devient très très compliqué, mais tout ça est généralisé. Tu sais, Richard, on parle des restaurants, mais c'est pas juste les restaurants, c'est aussi le personnel, on l'a dit, mais c'est aussi tous les fournisseurs, ce sont les distributeurs, ce sont les petits producteurs. Tout ça est affecté par cette pandémie qui emmerde vraiment tout le monde et qui risque de durer plus longtemps que prévu. Hein.
Écoute, l'entrecôte Saint-Jean sur Peel qui est fermé, qui était vraiment comme un restaurant là, traditionnel, légendaire, qui était une institution, exactement.
Oui, le Grumman 78 aussi, Gaël Serre qui a fermé et qui était aussi, le Grumman 78 est fermé définitivement depuis la semaine dernière. Ouf. Donc ça aussi c'est beaucoup de tristesse, effectivement des années de travail avec un aura assez original et de restauration de qualité. Donc voilà, on va voir cette bascule arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ça me fait très peur, je pense que le gouvernement, en redonnant un mois supplémentaire, essaie de sauver le mois de décembre en essayant coûte que coûte de pouvoir réouvrir pour les fêtes, mais ça reste très ambivalent comme décision, puisqu'on sait très bien que si on ouvre un petit peu la fenêtre, entre guillemets, non, si on ouvre un tout petit peu la porte, tout le monde va passer par la fenêtre. Oui. Et c'est ce qui m'inquiète le plus, parce que on l'a vu, malheureusement, ce qui se passe actuellement, c'est aussi pour beaucoup de laisser-aller de population, et tu le vois bien, toi aussi, dans ton quotidien de vie, il y a beaucoup de gens qui font pas attention. On en paye le prix.
Écoute, en terminant, t'es un chef, on se rabat sur le comfort food, on a besoin de se réconforter. Moi, ce week-end, on a fait...
la lasagne, hein, Richard? Hein?
Nous autres, on a fait une raclette à la maison, une raclette, c'était trippant, avec un Riesling, puis tout ça. Et ma blonde, on a fait un pain aux bananes, je suis pas sûr que c'est très bon pour ce que j'ai. Mais bref, toi, c'est quoi, toi, ton comfort food là, préféré? Là,
tu viens de m'ouvrir la porte, tu parlais justement de la raclette, mais tu vois, l'Auberge Saint-Gabriel, ils vont faire des take-out sur la fameuse fondue au fromage de l'Auberge Saint-Gabriel. Juste ça, moi, je sais que je vais aller en acheter parce que ça fait effectivement, ça fait du bien à l'âme. Mais fait, on arrive dans une période qui est quand même propice au comfort food. Il va commencer à faire froid, on a envie de s'encabaner, on a envie de se faire des petites choses chaleureuses, donc des braisées, des choses rôties au four qui vont donner des bonnes odeurs à la maison. Bon, le pain aux bananes, moi, je suis pas fan.
Ah, c'est bon, c'est tout humide, c'est mouillé.
Est extraordinaire. Je sais pas. Elle me donnera sa recette, Sophie.
Plats mijoteuses aussi, ça pogne.
Je pense que c'est ça. C'est les plats mijotés, les petits braisés, les choses qui vont cuire longtemps et très doucement et qui vont embaumer des bonnes saveurs dans la maison. Mais en même temps, si vous pouvez une fois sur deux ou une fois sur trois, je sais qu'il y a ces décoûts quand même, allez encourager un restaurant de proximité qui est proche de chez vous. Vous n'êtes pas obligé de manger de la cuisine toujours pareil. Vous pouvez changer aussi de provenance. Hein. Ça peut être japonais, ça peut être chinois, ça peut être mexicain, ça peut être italien, ça peut être québécois, ça peut être français. Mais leur donner un petit coup de main, je pense sincèrement que ça peut aider.
Tout à fait.
Et puis c'est un encouragement social qui va faire du bien à tous. De toute
façon. Tout à fait. Alors, on va aller encourager McDonald's et...
Surtout pas.
Et Burger King en ont besoin. Merci Thierry.
Okay, je vais recevoir des lettres d'insultes contre McDonald's, mais c'est pas grave.
Merci Thierry. Salut.
Merci Richard. À bientôt. Au revoir.
Jacques Godin qui est décédé, est-ce que tu l'avais vu, toi, des souris des hommes à l'époque? Ça nous a tous marqué, notre génération.
Ça a été un phénomène. Il a joué dans La Conciergerie, film d'un de mes romans. Et tu te souviens, au Franc-Tireur, il était venu en débat avec un représentant de l'industrie de la fourrure. Il a failli lui arracher les deux oreilles avec ses... Moi, là, Jacques Godin, il est décédé, 90 ans, pensant au frère de ma mère, là, tu sais, qui était policier à Montréal-Nord. Puis quand j'ai écrit la conciergerie, c'est mon oncle que j'avais en tête. Lui, il conduisait la voiture pendant que son partenaire tirait Monica Lamitraille sur le boulevard Pinneuf près de Charleroi. Puis il est sur la photo de la Gazette de Montréal. Il est penché au-dessus. Fait que mon oncle, là, il ressemblait physiquement à Jacques Godin.
Fait que là, quand le réalisateur, quand on va donner le rôle à Jacques Godin.
Ah ben, mettons que c'est moi qui ai eu l'idée, là, mais quand il a accepté, quand il est venu, quand j'ai vu comment il jouait, tu sais, c'était un... Jacques Godin, là, le profil de la police, c'est un artiste, là, c'est un poète, c'est un... Mais pour moi, il représentait la police straight qui allait pas jouer dans les magouilles, puis tout ça.
Fait que, il était parfait pour ce rôle-là.
Il était bon, puis dans cette valeur que là, Télé-Québec, tu sais, faudrait que Télé-Québec remette le segment qu'on a fait, entre autres, parce qu'il a fait plein d'affaires, Jacques Godin, mais quand on avait tourné ça à l'extérieur, dans le coin, tu sais, de Sam the Recordman, il y a une église, on avait tourné ça dans le coin de cette église-là, parce que les grandes manufactures de fourrures sont là pour les distribuer. Il l'avait ramassé. Jacques Godin portait des souliers en plastique parce qu'il voulait pas porter de cuir. Il était
contre. C'est un vrai
défenseur. Vrai de vrai.
Écoute ça, c'est des souris des hommes. Ouais. Écoute ça.
Ah ouais. Ah ouais. Comment ça va être? On va t'avoir une petite place. On aura une vache. On aura peut-être un cochon, puis des poules. Puis dans Bessière, on va t'avoir un petit carré de trèfle.
Oui, les lapins.
Pour les lapins.
Mais c'est moi qui vais venir soigner les lapins.
C'est toi qui vas soigner les lapins.
Ça, c'est un acteur.
Ça, c'est
un acteur.
Ça, c'est à la fin.
Aux antipodes de ça.
À la fin, Georges est avec Lenny.
Ouais.
Puis il veut le tirer dans la tête.
Ouais.
Parce que Lenny vient de tuer une femme et il est recherché par la police.
Ouais.
Et là, il lui raconte plus tard, tu vois, on va aller s'installer sur une ferme. Puis là, il lève son gun et il tire dans la tête.
Écoute. Tout le monde qui a vu ça ne peut l'oublier.
C'était inoubliable. C'est extraordinaire. Bon, tu nous parles de quoi aujourd'hui?
Tantôt, on va parler à Michel Leblanc, 28 autres jours de confinement. Ça va être difficile sur les entreprises, le centre-ville de Montréal. On va lui parler tantôt. À 11h, j'ai Paul Saint-Pierre Plamondon qui demande un observateur indépendant scientifique parce que...
Faut-tu c'est une bonne idée?
Ben oui.
Un gars qui va être là, qui va prendre des notes.
Ou une femme, là, qui va prendre des notes. Parce que là, il y a pas de procès-verbaux, il y a pas de notes, il y a pas de rapport, il y a pas rien. C'est Arruda qui arrive à François Legault. Hey, penses-tu qu'on devrait fermer la shop? Évidemment, c'est pas demain que ça se fait. Et à midi, on a Nathalie Normandeau avec nous.
Oh!
Qui est libre, comme Michel Richard chantait.
Je suis libre!
Merci, mais la fausse est moins. Mais on va lui parler aussi de, qu'est-ce que l'avenir lui réserve. Est-ce qu'elle a été un bouc émissaire du Parti libéral du Québec? La seule ministre à s'être fait arrêter.
Est-ce qu'elle veut avoir un micro de nouveau? Parce que
la job à Cube Radio.
Elle animait à la radio.
Pourquoi pas? Alors, c'est ce qui s'en vient à l'émission, M. Martineau.
On va t'écouter, M. Trézac. Merci beaucoup à Hugo Veilleux, la recherche. Maude Boutet aussi à la recherche. Achille Moinet à la console réalisation. Et qui nous a sorti ce bel extrait de Des souris des hommes. Et on se reparle demain à 8h. Bonne journée.
Je suis libre. Ne me dis pas que je t'appartiens. Je suis libre. Et je sais que je ne te dois rien.